Bon après-midi, mon cher Éric Lantier.
Bon après-midi, M. Pierre.
Ça va bien?
Ça va bien. Ben oui, moi, je suis très heureux. Je m'en vais avec un groupe au camp des Bouleaux, donc dans le coin de Grand Remous, dans les Hautes-Laurentides. Alors, ça va être bien agréable.
Un groupe de jeunes, un groupe d'amis?
Ben, un groupe de notre église.
Ah, OK.
Oui.
Tout le bagaille va bien, tout le bagaille va bien,
la caille papa moi, la caille papa moi.
Hey, hey. Oh, oh, oh. Le vendredi, il faut toujours chanter tout le bagaille va bien, la caille papa moi.
Oui. Chantons en pile.
En pile. Alors, Éric Lantier, c'est un born again Christian?
Moi, je suis un chrétien engagé et qui a la foi en Jésus-Christ.
Et de foi protestante.
Absolument, oui.
Oh là là!
Monsieur Pierre, mm-hmm. Je suis né dans une famille de catholiques non pratiquants et j'étais servant de messe étant jeune, donc je connais très bien la culture catholique et le rituel, etc. Un grand respect pour les gens qui ont la foi catholique.
Ce matin, j'ai pris, je sais que vous avez votre sujet, Éric,
oui.
Mais j'ai pris le temps parmi les reportages, parce que ça, j'aime beaucoup ça, orner le site de la radio, je travaille à faire ça, le site, avec des nouvelles, etc. J'ai vu un reportage sur le Born Again Christian, et dans cette mare de politique, mare de boue aux États-Unis de politique, et puis les Born Again Christians, sont divisés, mais on ne pourra pas dire également divisés, mais imaginez les Born Again Christians qui ont voté en 2016 à 80% pour Donald Trump. Tout simplement parce que Donald Trump semble être celui qui représente leurs intérêts de croyants fervents, n'est-ce pas? Et lorsqu'on regarde Donald Trump dans ses comportements, à part de vouloir tromper tout le monde, là, hein? Eh ben, c'est exactement pire qu'un prophète de malheur, pire que Satan lui-même en personne, n'est-ce pas? Avec tout ce que Donald Trump peut faire en permettant la libre circulation des armes, en lançant des guerres, pas beaucoup de guerres là, mais au moins une tentative contre, pas l'Irak, mais comment, l'Iran, n'est-ce pas? Et tout ça, et puis avec la bataille qu'on a entre Palestiniens et Israéliens, et son plan de paix, c'est loin d'être un homme de paix ça, Donald Trump.
Ah non, ben c'est sûr qu'il y a ses écarts, c'est un personnage à mon avis.
Mais on vote pour lui quand même aux États-Unis comme chrétien parce qu'il est pour il est pro-vie. Voilà.
Oui, c'est ça. Oui, mais la réalité évangélique et protestante aux États-Unis n'est pas la même qu'ici au Québec. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est on est né dans une culture catholique, qu'on soit pratiquant ou non. On a été habitué à ce que le christianisme est associé à un chef, un leader, et lorsqu'on se promène d'une église, d'une paroisse à l'autre, le rituel est sensiblement le même. Mais dans la réalité protestante, c'est multicolore. On peut arriver dans une église protestante très traditionnelle et dans une autre où est-ce que c'est complètement éclaté. Il y en a, par exemple, des pasteurs qui vont prêcher en jeans. Dans d'autres, c'est la cravate obligatoire. Alors, c'est très très diversifié comme culture. Et ce qui fait, et spécialement au Québec...
Alors, j'en veux justement à cette docilité qu'on trouve au sein des églises protestantes, n'est-ce pas, et cette hyper-croyance en Dieu. Et si on prend l'exemple justement aux États-Unis, ça veut dire on ne remet pas en question certaines vérités de cet évangile, mais de l'évangile des hommes, n'est-ce pas?
Ouais.
Et on gobe tout, et ça là, c'est dangereux pour la survie du monde, hein, parce qu'un bandit comme Donald Trump peut s'arroger le droit juste en se faisant passer comme l'agneau, n'est-ce pas, et pourtant c'est le loup qui est dans la bergerie et qui peut faire tellement de mal. Mais les gens, hein, born again Christian, on est né de nouveau, c'est lui notre représentant, on va voter. Peut-être que on votera plus à 80% aux prochaines élections en faveur de Donald Trump, mais ça sera certainement autour de 60%, hein?
Oui, mais vous savez, lorsque les chrétiens ou les croyants ont cette attitude-là de suivre aveuglément comme des petits moutons, ce n'est pas l'esprit biblique. Parce qu'à un moment donné, l'apôtre Paul, on voit ça dans les Actes, c'est au chapitre 17, au verset 11, où est-ce que il s'en va dans une ville, un patelin qui s'appelle Béré, et même si lui, c'était l'apôtre, il allait vérifier, il allait scruter dans les Écritures pour voir si ce qu'il enseignait était conforme à ce que Dieu dit. Et ces gens-là ont été loués parce que il allait vérifier, il allait scruter. Il prenait pas, comme on dit en latin, il prenait pas pour du cash ce qui était dit. Et malheureusement, dans toutes les contrées du monde, il y a des gens qui, plutôt que faire des recherches, plutôt que se questionner, plutôt que de vérifier, eh bien, vont suivre aveuglément des leaders, et ça, c'est dommage.
Et Eric, l'une des choses qui est à corriger surtout, et si on veut pratiquer ce que Jésus-Christ, parce que je crois, moi, qui a eu sur cette terre le passage d'un homme célèbre, n'est-ce pas? Et je crois honnêtement qu'il est né, peut-être pas exactement la date, à Jérusalem, et tout ça, je crois. Mais par contre, quand on suit le parcours de cet homme jusqu'à 33 ans, mais pas avant, presque à 31 ans, je ne sais pas pourquoi avant, on ne veut pas parler de la vie de Jésus avant, n'est-ce pas? Pas beaucoup. À tout le moins, dans sa vie d'adulte, il s'est questionné sur pas mal de pratiques dans cette enceinte qu'on a appelée l'Église, en jetant dehors justement des marchands qui utilisaient l'espace pour gagner des dollars ou des sous, n'est-ce pas, pour leur propre bien-être personnel. Alors, que l'espace qu'on appelle Église ne serve pas à faire du commerce, parce que dans certains cas, c'est un grand commerce à ciel ouvert. Alors, si Eric peut nous dire un petit mot, on va trouver un petit temps quand même sur le sujet qu'il a choisi. Hein, Éric Lantier?
Oui. Mais écoutez, moi, je suis content qu'on ait ouvert cette porte-là. C'était pas prévu, mais moi, j'aime toujours discuter, partager ma foi avec respect et comprendre aussi comment la foi chrétienne, elle est perçue. Et pour moi, ça me fait plaisir. On pourra en reparler n'importe quand. Je suis très ouvert à cela. Et le sujet d'aujourd'hui que je voulais adresser, c'est ça vient d'un article qui a été publié aujourd'hui sur le Journal de Québec de Nathalie Elgrabli-Lévy, qui est pourtant une économiste, mais qui se prononce sur plusieurs enjeux sociaux. Et elle mentionne que en 2014, lorsqu'il était question de la loi sur mourir dans la dignité pour donner la mort en fin de vie, que c'était prévisible même à ce moment-là que on allait ouvrir la porte à ceux qui allaient réclamer la mort s'ils avaient des souffrances psychiques. Et ce qu'elle reproche, c'est que dans ces projets de loi-là, qui sont très délicats et qui demandent énormément de soins, eh bien, elle dit le problème, c'est que l'intelligentsia politique use des subterfuges lexicaux comme l'expression « soin de vie » et joue sur l'humanité des individus pour faire oublier que la loi vise ultimement à permettre à l'État de tuer en toute légalité. Mais moi, c'est vous, qu'est-ce que je tire de leçon de ce texte? Mais j'ai toujours dit à cette antenne, et j'ai toujours dit qu'au Québec, on devrait davantage avoir une culture de débat. Et si le débat a eu lieu à l'Assemblée nationale, mais si le débat avait eu lieu dans la population et qu'on aurait été plus au parfum des tenants et aboutissants de cette loi-là et des prochaines étapes qui allaient être amenées par cette loi-là, je crois que les décisions auraient été différentes et on aurait été beaucoup plus prudents avant d'adopter cette loi-là.
Ah, est-ce que c'est trop tard? Je ne pense pas. Évidemment, on a vu le gouvernement qui a voulu aller très vite en besogne par rapport à ce jugement de la Cour supérieure qui demande de revoir certaines définitions, surtout fin de vie prévisible et tout ça. Bon, mais on a senti aussi que des membres de la société civile, particulièrement des médecins spécialistes, ont dit attention, il faut faire attention, surtout lorsqu'on on parle de problèmes psychologiques, psychiques, n'est-ce pas, qu'il faut faire attention. Donc, le débat se fait tranquillement dans la société, mais est-ce que nous, comme membres de la société, on peut vouloir alimenter ce débat? On n'a pas besoin d'être invité au Salon Bleu de l'Assemblée nationale, là.
Hein? Oui, exact, parce qu'on en a eu une preuve la semaine dernière. Mmh. Quand les gens se sont mis à réagir, ils se sont mis à interpeller le gouvernement en disant « Hey, là, on va trop loin. Là. Si quelqu'un a des problèmes de santé mentale puis réclame la mort, ça n'a aucun sens. » Mais parce que les organismes se sont prononcés, on pense justement à cette association-là qui représente les gens qui sont atteints de schizophrénie, on pense à différents organismes, différents individus, même des politiciens qui se sont questionnés, même Mme Yvon, qui était l'instigatrice du projet de loi sur l'aide médicale à mourir, a dit « Oh, un instant, il y a plein de questions qu'on se pose, mm-hmm. qu'on est sans réponse. Mm-hmm. » Et c'est là que ça a suscité un débat, un sain débat, et moi, j'aimerais ça qu'il y en ait davantage. Qu'il y ait des référendums, par exemple, sur ces questions épineuses-là, pour que la population puisse se prononcer.
Mais tout ça pour réfuter la conclusion de l'auteur de l'article en disant que le gouvernement est en train de se donner un pouvoir qui, normalement, il ne devrait pas avoir le pouvoir de tuer. Non. Je pense qu'il faut regarder la société dans laquelle on vit, la société qui a tellement changé. Alors, Eric, vous n'êtes pas très vieux, mais vous pouvez remonter aux années au moins 80, n'est-ce pas, voir comment on vivait dans cette société et comment ça l'a évolué. Par rapport à la présence de l'Église dans nos vies, n'est-ce pas? Ça a beaucoup changé. Alors, on est rendu là, aujourd'hui, et on suit le monde dans ce sens-là, qu'on peut regarder la fin de la vie avec une certaine sérénité. On a moins peur de mourir, de plus en plus, n'est-ce pas? Et on parle de la mort comme d'une étape normale dans la vie d'un humain. Et puis, on y va comme ça. Et on n'est pas la seule société au monde. Dans les pays de plus en plus développés, c'est le même discours. Alors donc, c'est pas... Parce que dans les pays où les gouvernements se donnent le pouvoir de tuer, eh ben ils font tout ce qu'ils peuvent pour instituer la peine de mort.
Oui, mais c'est un point important. La population, spécialement la population du Québec, va s'offusquer à ce que, par exemple, un violeur récidiviste, qu'on réclame la peine de mort, va dire « Ben non, c'est cruel, on peut pas tuer, même si c'est un assassin, c'est un être humain, mais un être vulnérable à qui on ne donne pas des soins suffisants, on est prêt à lui donner la mort. »
Alors,
c'est une incohérence.
C'est un autre débat, n'est-ce pas, à propos de ces soins-là. Merci beaucoup, mon cher Eric.
Au plaisir, à la semaine prochaine.